Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, le gouvernement congolais déterminé à libérer toutes les zones contrôlées par les M23 pour ainsi restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Propos du vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba hier vendredi à Goma au Nord Kivu au cours de sa visite d'évaluation de la situation sécuritaire dans cette province. La ville de Kinshasa risque de disparaître au fil des années à cause des crues du fleuve Congo si rien n'est fait en termes de planification. C'est ce qu'a déclaré ce samedi à Kinshasa l'ancien sénateur Didier Mumengi au cours d'une séance d'exposition photo sur l'urbanisation sauvage et les dérèglements climatiques. L'invité de ce journal est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, part de l'opération Springbok pour la sécurité de Goma et de Sake au Nord Kivu. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce journal. Le gouvernement congolais est déterminé à libérer toutes les zones contrôlées par le M23 pour ainsi restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Propos du vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba hier vendredi à Goma au Nord Kivu au cours de sa visite d'évaluation de la situation sécuritaire dans cette province. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Tshiwewe, se sont rendus à Sake à 27 km de Goma pour réconforter les troupes engagées au front et aussi les féliciter pour leur travail. Écoutez plutôt Jean-Pierre Bemba dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat du Nord Kivu.
Nous sommes venus accompagner le Kinshasa avec le chef d'état-major général et sa délégation à la demande du chef de l'État, le commandant suprême, pour pouvoir d'abord s'enquérir de la situation, mais également apporter un réconfort à toute cette population, à Sake, qui a vu ici les affres de la guerre violente provoquée par l'ennemi que vous connaissez, que nous a imposé la guerre, c'est le Rwanda, là-dessus. C'est un message de réconfort, de soutien, également à nos forces armées, à nos amis des forces qui sont ici présentes, la SADEC, les compagnies privées qui sont ici, nos frères Wazalendo qui se battent également, que nous félicitons pour la défense de notre territoire. La population, qu'elle puisse être sereine, le chef de l'État ne dort pas, jour et nuit, il suit la situation ici et tout est mis en œuvre au niveau de nos forces armées pour pouvoir en faire en sorte que ce soit Sake, soit Goma et que ça soit protégé et que tous les territoires qui appartiennent à la RDC, Rutshuru, Masisi, puissent être libérés.
Et par la même occasion, le vice-premier ministre et ministre de la Défense a rendu visite aux blessés de guerre. Il a aussi remis l'assistance du président de la République à une dizaine de familles endeuillées par les récents affrontements. Notons par ailleurs que Jean-Pierre Bemba a rencontré également le commandant par intérim de la force de la MONUSCO. Les échanges ont porté sur la coordination des actions contre les M23 dans le cadre de l'opération Springbok afin d'assurer la défense de Goma et de Sake. Et justement, à propos de cette opération Springbok afin d'assurer la défense de Goma et de Sake, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, sur la collaboration, parle de la collaboration entre les FARDC et la MONUSCO. Je vous propose de l'écouter.
C'est tout à fait normal dans un contexte où la population a soif de sécurité, qu'il y ait une partie de l'opinion qui soit non pas sceptique ou qui souhaite que l'on fasse davantage. Il faut comprendre cette opinion. Ici, il faut simplement s'assurer que cette opinion, lorsqu'elle s'exprime, elle s'exprime pour se faire entendre, ça veut dire de manière pacifique. Nous, nous considérons comme gouvernement que notre responsabilité première est d'assurer la protection et la sécurité de nos populations et nous faisons de notre mieux pour que cela se fasse. Comme cela a été dit au terme du Conseil supérieur de la Défense la dernière fois, les dispositions ont été prises pour que Goma ne tombe pas entre les mains des terroristes, mais c'est pas seulement Goma, mais c'est aussi toutes les localités ou parties du territoire qui sont occupées par ces ennemis de la paix. C'est aussi un message de solidarité et de compassion pour toutes les populations congolaises qui sont victimes de cette agression. Le gouvernement continue de suivre et de travailler. D'ailleurs, hier, le Premier ministre en Conseil de ministres revenait encore sur l'appui humanitaire que nous devons impérativement assurer pour nos populations dans cette partie du territoire. Ici, nous allons demander à nos populations de Goma de faire confiance au gouvernement, au président de la République, et tout est mis en œuvre pour que la paix puisse être restaurée.
Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, est l'invité de ce journal à suivre souper à la fin de cette édition. Dans la province du Tanganyika, les chefs de la milice Apanapale, connus sous le nom de 5-5, et trois de ces hommes ont été tués jeudi dernier par les FARDC. Plusieurs sources concordantes indiquent que c'était au cours d'une altercation entre les FARDC et ses miliciens sur le site minier de Lulia dans le groupement Bakalanga, en secteur Nord Lukuga, territoire de Nyunzu. Le point avec Paul Munanga.
De son vrai nom, Amuri Kasongo, dénommé 5-5, il était le chef de la milice Apanapale. Il était lieutenant de l'ex-chef milicien Mundusi, fondateur du groupe armé Apanapale, mais il est actuellement sous les coups du processus de désarmement et de mobilisation, indiquent plusieurs sources. 5-5 sémait la terreur dans le groupement Bakalanga, territoire de Nyunzu. Ce jeudi, ces miliciens ont fait incursion dans le site minier Lulia qui est tenu par des Chinois. Des sources signalent qu'ils voulaient ravir de l'or auprès de ces Chinois. Le ministre provincial de l'Intérieur du Tanganyika indique que les éléments FARDC qui sont sur place à Lulia sont intervenus. Au cours de cette altercation, signale Dieudonné Kasaka, 5-5 et 3 de ces hommes ont été tués, un élément FARDC a été blessé et quelques armes des miliciens récupérées. Face à cette situation, des sources rapportent que les Chinois ont évacué le site minier de Lulia ce vendredi, craignant des représailles des miliciens Apanapale après la mort de leur leader. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Des échauffourées ont opposé ce samedi matin un groupe de personnes aux différents services de l'État au niveau du pont jeté sous la rivière Ituri, à la limite entre la chefferie de Babila-Babombi et Babila-Bakwanza dans le territoire de Mambasa. Des sources sur place rapportent que des jeunes exprimaient leur mécontentement contre ces agents qui interdisent aux passants d'utiliser gratuitement une déviation aménagée par des expatriés chinois qui exploitent de l'or dans cette région. La chef du réseau de plaidoyer territorial de Mambasa sollicite l'intervention des autorités locales pour qu'elles instruisent ses responsables à laisser ses usagers des routes passer librement sans payer. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Ces agents de l'État obligent les passants à utiliser pour la traversée des embarcations de fortune construites par des particuliers moyennant une somme d'argent. Le montant varie entre 5 000 et 60 000 francs congolais selon qu'il s'agisse des motos ou des véhicules. Plusieurs services de l'État présents au pont se partageraient ces recettes, affirme la coordonnatrice de réseau de plaidoyer territorial de Mambasa, Marie-Noël Anotaï, plaide pour un passage gratuit car il s'agit d'une passerelle créée par des Chinois pour faciliter la traversée de leurs engins.
Oui, les plaidoyers qu'on peut faire, demander aux autorités de ne pas infliger des sommes importantes comme ça à la communauté qui a souffert pendant tout ce temps. Parce qu'il y a eu même des marchandises qui s'étaient noyées, des personnes qui sont mortes par noyade. Mais l'État n'a jamais indemnisé personne. Si par chance les Chinois parviennent à créer cette déviation en montant ces pots-là, pour que les passagers passent, il faut encore payer de telles sommes. Je ne sais même pas si cet argent va où.
C'est cette décision qui a suscité ce samedi la colère des habitants de cette contrée, particulièrement des montards. Après l'intervention des autorités coutumières et de l'armée, la tension est retombée, affirment nos sources, qui précisent cependant que ces agents ont juste revu à la baisse le tarif de la traversée. Bounia, Jean-Claude Loki. Il est Radio Capi.
En bref, marche pacifique ce samedi en Mbandaka contre la mauvaise connexion Internet. Les manifestants accusent les réseaux Airtel, Orange et Vodacom de bénéficier de leurs achats d'unités et des forfaits sans fournir une connexion fluide. Difficile de communiquer aisément ou de télécharger des documents, ont-ils dit, notamment pour les étudiants dans le système LMD. Face au silence des autorités locales, les manifestants ont scandé des chants contre les trois compagnies. Ils se sont également arrêtés devant leur représentation provinciale en vue d'exprimer leur ras-le-bol. Notons que les manifestants sont allés déposer un mémo à l'Assemblée provinciale ainsi qu'à la mairie qui a autorisé cette marche. Et puis, l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section Grand Bandundu, condamne la détention qualifiée d'illégale à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa, des journalistes Blaise Mabala Moufou, œuvrant à la radio Même Morale FM dans la ville d'Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombé. Cela fait exactement 16 jours depuis que ce journaliste est en détention sans être présenté devant le juge. La corporation dénonce ainsi les conditions inhumaines de ce transfèrement d'Inongo à Kinshasa sous menotte dans un canot rapide sous le lac Maïndombé. Dans une déclaration à la presse ce samedi, les journalistes du Grand Bandundu exigent sa libération immédiate. Extrait de leur déclaration choisie par Irène Boma.
Le journaliste Blaise Mabala est en détention à la prison centrale de Makala depuis le 24 janvier, alors que son juge naturel est resté à Inongo. Selon les sources concordantes, le dossier de Blaise Mabala était pendant devant le tribunal de grande instance d'Inongo. Il a été envoyé en communication à la Cour de cassation afin de permettre au juge de les entendre avec un des accusés qui est le vice-gouverneur de Maïndombe pour des allégations tenues contre son titulaire sur les antennes de la radio précitée. À ces jours, tel est notre regret de constater que le vice-gouverneur accusé par son titulaire devant la Cour de cassation circule en homme libre sur les rues de Kinshasa. Ses actes présagent un plan machiavélique et un coup monté tendant à nuire la vie des journalistes. De ce fait, nous exigeons la libération sans condition du journaliste Blaise Mabala Mofu et son retour à Inongo afin de retrouver sa famille et poursuivre son travail.
Et pour rappel, le journaliste Blaise Mabala a été transféré au parquet près la Cour de cassation sur plainte de la gouverneure du Maïndombe, Rita Bola, qui l'accuse de diffamation. C'était lors d'une émission sur les antennes de la radio Mémorale FM, dont le responsable, le vice-gouverneur Jacques Mbombaka, était l'invité. La ville de Kinshasa risque de disparaître au fil des années par les crues du fleuve Congo si rien n'est fait en termes de planification. C'est ce que pense le sénateur Didier Moumengi. Il a dit ce samedi à Kinshasa au cours d'une séance d'exposition photo intitulée « Urbanisation sauvage et dérèglement climatique, la crue du fleuve Congo déshabille Kinshasa ». Organisée par Nextcore, la société éditrice du média en ligne Actualité.cd, cette activité vise à sensibiliser le public aux conséquences dramatiques de ces phénomènes. On écoute à ce sujet Didier Moumengi au micro de Grâce Hamzati Masanzi.
Il faut savoir que les crues du fleuve Congo ont connu un paroxysme, un pic en 61. C'était la première fois qu'on a vu Kinshasa quasiment sur le bord d'être englouti. Et depuis lors, il y avait une périodicité de 10 ans. Chaque 10 ans, on déplorait ces phénomènes. Mais depuis 2019, ce n'est plus 10 ans. 2019, 2023, c'est moins de 5 ans. Alors, il y a risque que la périodicité des crues se rétrécisse et nous entraîne vers une sorte d'écrue apocalyptique qui risque de faire disparaître cette ville de Kinshasa. D'où la nécessité que nous marquions un stop, et c'est cela ma proposition, ça a été la proposition des sénateurs de la ville de Kinshasa, pour que les intelligences urbanistiques, les intelligences géographiques, toutes les intelligences qui participent à l'aménagement, à la construction de la ville, se mettent autour d'une table et donnent à cette ville un plan master. Nous avons proposé de la perspective de 2036, parce qu'en 2036, la ville aura l'âge de 70 ans. Il faut qu'on fasse le point. Qu'avons-nous fait de la vitrine de la République démocratique du Congo ?
Notez que d'autres intervenants, notamment les professeurs Jean Chrétien Cambo et Yoka Lié Mundaba, ont parlé du rôle crucial du journalisme dans la compréhension et la communication des changements climatiques urbains, en mettant l'accent sur les responsabilités des médias face aux défis climatiques. Au Congo central, pendant ce temps, clôture ce samedi à la province éducationnelle 2 de la formation sur le nouveau système de recrutement des enseignants et directeurs d'écoles primaires axés sur le mérite. Cette formation, organisée par le ministère de l'EPST en collaboration avec la Banque mondiale à travers les projets d'équité et de renforcement du système éducatif en abrégé, a été lancée mercredi dernier. Selon le formateur national Blaise Nguindou Massamba, cette formation constitue l'une des réformes initiées par l'État congolais visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire, en baisse sensible depuis l'instauration de la gratuité de l'enseignement par le chef de l'État à cause des recrutements subjectifs des enseignants. Le formateur national Blaise Nguindou Massamba explique les bien fondés de cette innovation dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambou.
Notre pays s'est engagé à changer des choses. Parce que avant, lorsqu'il s'agissait de recruter un enseignant de l'école primaire, souvent c'était des critères subjectifs ou c'est par relation ou par appartenance à une organisation religieuse ou sociale qu'on se faisait recruter. Alors le gouvernement a pris l'engagement avec la nouvelle stratégie sectorielle de l'éducation. Il s'est engagé à rendre plus performant le recrutement des enseignants afin d'atteindre ce que nous appelons l'amélioration de la qualité des enseignants. l'enseignement à l'école primaire. Parce que aujourd'hui, la qualité de l'enseignement a sensiblement baissé. Et l'une des causes, c'est justement les recrutements. Lorsqu'on recrute mal, lorsque les critères de recrutement ne sont pas connus d'avance, ça donne à la fin des mauvais résultats. Donc, ceux qui ont été formés aujourd'hui, les acteurs du niveau provincial, ici il s'agissait de la province éducationnelle Congo Central 2, et ceux qui ont reçu la formation au niveau provincial vont dupliquer cette formation-là au niveau sous-provincial.
Actualité internationale.
Après-midi tendu ce samedi à Dakar, au Sénégal, plusieurs manifestations ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise. Des manifestants qui protestent contre le report de la présidentielle. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre, causant la mort de deux personnes.
L'invité.
L'invité de ce journal est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, parle de l'opération Springbok pour la sécurité de Goma et de Saké au Nord Kivu. Il rassure aussi la population de ces coins sur la volonté du gouvernement de mettre fin à cette guerre et d'assister de nombreuses personnes devenues vulnérables à la suite de ces conflits. Il s'entretient avec Grâce Hamzati Massanzi.
Patrick Muyaya, bonjour.
Bonjour.
La ville de Goma est menacée depuis quelques jours par les agresseurs. Les FARDC y font face avec la MONUSCO. Dites-nous, comment ça se passe ?
Écoutez, le vice-premier ministre, ministre de la Défense qui a séjourné hier sur place nous a plus ou moins fait le compte rendu de comment les forces, nos forces avaient promptement réagi le jour où notamment des bombes sont tombées à Goma, où il y a une tentative de prendre Saké, et dans l'engagement qui a été fait par nos forces armées, il y a eu évidemment une intervention de la MONUSCO. Et les opérations se sont plutôt bien déroulées.
Justement, vous venez de parler de la MONUSCO. Quelle est la part ou la contribution réelle de la MONUSCO dans ces efforts communs ?
Je ne saurais pas vous donner des détails opérationnels parce que ça relève de la stratégie militaire. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a, au-delà de l'opération Springbok qui avait été prévue, une planification qui avait été faite avec nos services pour nous assurer que les populations, nos populations sont protégées.
Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez rassurer la population que vous disposez des moyens logistiques nécessaires pour faire face à l'ennemi ?
Écoutez, cette guerre, nous la préparons, nous nous organisons pour nous doter, nous équiper, avoir les moyens qu'il faut pour nous assurer que nous sécurisons notre territoire. Évidemment, je ne serai pas en mesure de vous dire tout ce qui relève du domaine militaire, mais nous avons pris nos dispositions pour cela.
Comment vous répondez à ceux qui accusent les FARDC ainsi que la MONUSCO d'inefficacité, surtout en ce qui concerne l'opération Springbok ?
Écoutez, c'est tout à fait normal dans un contexte où la population a soif de sécurité, qu'il y ait une partie de l'opinion qui soit non pas sceptique ou qui souhaite que l'on fasse davantage. Il faut comprendre cette opinion. Ici, il faut simplement s'assurer que cette opinion, lorsqu'elle s'exprime, elle s'exprime pour se faire entendre, ça veut dire de manière pacifique. Nous, nous considérons comme gouvernement que notre responsabilité première est d'assurer la protection et la sécurité de nos populations et nous faisons de notre mieux pour que cela s'efface.
Et quel message, en définitive, que vous lancez à toute la population, particulièrement à celle du Nord Kivu, notamment des Goma ?
Écoutez, comme cela a été dit au terme du Conseil supérieur de la défense la dernière fois, les dispositions ont été prises pour que Goma ne tombe pas entre les mains des terroristes, mais c'est pas seulement Goma, mais c'est aussi toutes les localités ou parties du territoire qui sont occupées par ces ennemis de la paix. C'est aussi un message de solidarité et des compassions pour toutes les populations congolaises qui sont victimes de cette agression. Le gouvernement continue de suivre et de travailler. D'ailleurs, hier, le Premier ministre en Conseil de ministres revenait encore sur l'appui humanitaire que nous devons impérativement assurer pour nos populations dans cette partie du territoire. Ici, nous allons demander à nos populations de Goma de faire confiance au gouvernement, au président de la République, et tout est mis en œuvre pour que la paix puisse être restaurée.
Monsieur le ministre Patrick Muyaya, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'était merci. Notre invité, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, s'entretenait avec Grâce Hamzati Massanzi. Fin de ce journal qui a été supervisé par Noëlla Luzituka Bambi et mis en onde par Pierre Diassinois. À vous infiniment merci de l'avoir écouté.